est toujours sur Skype depuis la ville de Lincoln au Nebraska. Jean-Aimé Mbia Bondo, responsable à l'ONG International American Relief Society. Merci à tous d'être avec nous pour ce débat. Alex Boucher, on a vu ce reportage au Burkina Faso, 1 200 000 déplacés internes, sans compter les réfugiés maliens. C'est une situation un peu difficile, n'est-ce pas, sur le plan sécuritaire pour les autorités?
Oui, et puis comme l'a expliqué le reportage, c'est une énorme augmentation du nombre de déplacés en interne au Burkina Faso. C'est une augmentation par 9, la plus grande augmentation en Afrique sur cette année écoulée. Et puis en effet, de pouvoir s'occuper de tant de personnes déplacées par cette terrible violence, ça présente beaucoup de défis pour ce gouvernement qui en même temps essaye de combattre cette insurrection islamiste dans le pays. Donc en effet, c'est un énorme défi de devoir répondre à ces deux urgences en même temps.
Et justement, on a vu des stars comme Angelina Jolie se rendre au camp de Guébédou, donc au Burkina Faso, à la frontière malienne. Cette zone des trois frontières est instable et un peu la cause de ces déplacements massifs de population.
Oui, ces conflits et cette instabilité sont partout en Afrique la cause de ce genre de déplacement. On a vu là cette année passée que 32 millions d'Africains sont soit déplacés en interne ou réfugiés ou demandeurs d'asile, et ils viennent à 88% de 10 pays d'Afrique, et sur ces 10 pays d'origine, tous sont en conflit. Donc il est évident que c'est le conflit qui est l'un des facteurs les plus importants de ce déplacement dans le continent. Mais il y a aussi un autre facteur important qui est la gouvernance répressive et autoritaire, puisque sur ces 10 pays, 7 ont des gouvernements à tendance autoritaire. Ce n'est pas le cas au Burkina Faso, mais...
Alors, Jean-Aimé, vous êtes avec nous maintenant. On l'a perdu, donc je reste avec vous, Alex. Vous parliez un peu tantôt du régime, en fait, des gouvernements autoritaires qui sont un peu l'une des causes de cette instabilité. Mais comment, sur la crise de la menace djihadiste elle-même, comment est-ce que les gouvernements peuvent faire face pour éviter tous ces déplacements de population?
Eh bien, dans certains pays, ces crises de gouvernance sont liées à ces insurrections djihadistes, mais pas dans tous. Donc, il est évident que quelle que soit la cause de ces conflits, il faut que les gouvernements arrivent à soutenir les populations, que ce soit du point de vue du développement économique ou alors aussi, par exemple au Burkina Faso, c'est apparemment presque 300 000 enfants qui, suite à ces conflits, se voient privés d'école, puisqu'ils sont déplacés. Donc ce genre d'urgence pour ces populations doit aussi être résolu.
D'accord. Alors on va à Lincoln, Nebraska, retrouver l'un de nos invités, Jean-Aimé. Alors, pour parler un peu de cette situation des réfugiés dans l'est de la RDC aussi, hein, on a des milliers de personnes qui sont forcées d'abandonner leurs terres fertiles à cause des attaques des groupes armés qui les ciblent jusque dans les camps de déplacés, comme on l'a vu au début de ce mois en Ituri et au nord Kivu. Pourquoi, selon vous, Jean-Aimé, les réfugiés, les déplacés deviennent des cibles même dans ces camps?
En fait, merci beaucoup. Selon notre constat, les réfugiés souvent sont devenus des cibles parce que les ennemis ou bien les rebelles les considèrent comme les boucliers. Pour eux, c'est une façon de faire entendre leur voix afin qu'ils puissent continuer à mener leurs actions. Et en profitant de la vulnérabilité qu'ont la plupart des réfugiés, surtout les femmes et les enfants, et ils essayent de les attaquer pour se justifier et puis avoir les moyens nécessaires qui, afin de continuer leur politique et leur business.
Est-ce que ce n'est pas aussi parce qu'on considère ces camps comme des endroits où quand même il y a beaucoup d'assistance humanitaire, donc certainement des ressources à pied ou des déplacés qui peut-être ont quelques ressources?
En fait, les déplacés n'ont pas des ressources, mais on profite beaucoup, c'est comme ils savent que, comme vous venez de dire, ils profitent de la présence des aides humanitaires. Mais quand vous regardez les réfugiés, les déplacés, même sont des personnes vraiment très vulnérables, mais ils profitent pour venir prendre les vivres qu'ils ont à ces réfugiés, afin d'aller vivre dans l'herbe, en brousse.
Alors, Alex, les infiltrations dont font état des gouvernements, on a entendu par exemple à Dadaab au Kenya et récemment Intikane au Niger, c'est un peu pour justifier soit la fermeture, soit la relocalisation de camps de réfugiés. Est-ce que ce sont des raisons réelles ou ce sont juste pour justifier les relocalisations? Comment est-ce qu'on peut arriver vraiment à un équilibre entre la sécurité et la nécessité d'assister les réfugiés?
Cette question est très difficile et ça doit sûrement dépendre de la situation dans chacun de ces camps de réfugiés. Et c'est vraiment dommage que notre collègue du HCR ne soit pas là pour expliquer comment sont gouvernés ces camps de réfugiés, parce que ces aspects-là sont vraiment très compliqués. Mais il me semble que les gouvernements doivent travailler avec les dirigeants de ces camps pour essayer de trouver des solutions viables à ces questions de sécurité dans ces camps.
Alors, Jean-Aimé, la question de la sécurité même des réfugiés, des déplacés, est-elle en train un peu de prendre le dessus sur par exemple, la prise en charge? Qu'est-ce qu'il faut faire?
En fait, à notre avis, nous pensons que le plus grand problème vient au niveau de la défaillance des gouvernants de sécuriser même les camps de réfugiés. Parce que tous les camps, les réfugiés sont dans un pays et ça revient au pouvoir, bien aux dirigeants administratifs et politiques et sécuritaires de sécuriser les camps des réfugiés. Et si même les rebelles profitent pour attaquer certains camps, c'est parce qu'il y a une défaillance et il y a une complicité de certaines autorités politiques et de sécurité qui favorisent ce genre de choses.
D'accord.
Et nous pensons que la responsabilité d'abord incombe au gouvernement de sécuriser tous les camps, partout les camps des réfugiés se retrouvent.
D'accord, la sécurisation des camps de réfugiés. Alors voici quelques commentaires de nos téléspectateurs sur la page Facebook de VOA Afrique. On a Alphonse Mbouaké à Kinshasa qui nous dit: quand on place les réfugiés dans des camps, il faut les protéger aussi parce qu'ils y sont poursuivis et tués. Ou alors des terroristes s'infiltrent dans ces camps pour y mener des activités meurtrières. Gilberto de Hal Campagne nous dit les Nations Unies et les grandes puissances doivent aider les pays en difficulté sans intérêt. Et puis Loali Tanimoun est à Niamey au Niger, il écrit: les gouvernements doivent essayer de rassembler les populations déplacées dans les zones semi-urbaines afin de pouvoir les protéger contre leurs ravisseurs. Cela permettrait aussi de leur fournir une meilleure assistance en termes de services sociaux de base, comme l'accès à l'eau, la santé et l'éducation. Et justement, Alex, avant peut-être de marquer une pause dans cette émission, on l'a vu dans ce reportage en première partie, c'est comme si les gouvernements ne veulent pas voir les réfugiés dans les zones urbaines, alors qu'on a un des téléspectateurs qui suggère justement qu'on déplace tous ces réfugiés dans des zones semi-urbaines pour mieux les assister. Comment est-ce que vous voyez la situation?
Il me semble encore que c'est une question très difficile. On sait, notamment dans les cas de pandémie ou d'autres crises, que les populations urbaines en Afrique ont tendance à se replier vers les campagnes dont ils sont peut-être originaires. Mais en même temps, il semble peut-être aussi qu'il y ait plus peut-être d'accès aux services de santé, par exemple en ville. Donc quand on conjugue ces crises de réfugiés avec la crise sanitaire auxquelles nous sommes face en ce moment, ça présente deux défis qui se conjuguent en même temps. Donc ça complique d'autant plus cette réponse.
Oui.
Il est vrai que de se voiler la face et de dire « Ah non, il n'y a personne ici », ça n'aide sûrement pas à trouver des solutions viables.
Et vous, Jean-Aimé, rapidement, quelle est votre position sur cette question? Faut-il déplacer les réfugiés dans des zones plus sûres ou faut-il les laisser dans des camps?
En fait, il y a un problème de réinsertion qui s'est posé à ce niveau-là, mais je crois que quand dans un camp de réfugiés, ce qui est plus sûr, c'est qu'il faut d'abord qu'ils soient sécurisés. Les humanitaires essaient de faire ce qu'ils peuvent faire à leur niveau, mais la responsabilité, comme on le dit toujours, incombe d'abord au gouvernement de prendre en charge et de sécuriser tous ces gens, que ce soit sur les plans sécuritaires ou sur les plans sanitaires. Donc, tout revient au gouvernement. De les déplacer ou ne pas les déplacer, ça reviendra à toi-même.
D'accord. Voilà. Merci de rester fidèle à VOA Afrique Washington Forum. Reviens après une courte pause. Seconde partie de Washington Forum, dans les camps de réfugiés du nord du Cameroun, les combats pour les ressources naturelles entre les communautés d'accueil et la plupart des réfugiés nigérians ont causé des tensions et des dommages environnementaux. Des groupes locaux, comme avec l'HCR, s'efforcent de réduire les conflits et d'améliorer l'écologie en reboisant les camps et leurs alentours. C'est un reportage de Moki Edwin Kinzeka avec le récit de Lionel Gaïma.
La réfugiée nigériane Mariamu Adraouz cuisine avec du charbon de bois qu'elle fabrique elle-même au camp de Minawao, sa maison depuis 5 ans dans le nord du Cameroun.
Trouver du bois, il fallait aller dans la brousse. Et même en brousse, ce n'était pas facile. On ne pouvait pas couper du bois. Les gens nous pourchassaient. Ils ont confisqué notre matériel, nos outils.
La région de Minawao abrite environ 118 000 Nigérians qui, depuis 2014, fuient les troubles causés par le groupe islamiste militant nigérian Boko Haram. Le nombre des réfugiés dans la région a encore mis à l'épreuve les ressources naturelles, comme le bois, pour la cuisine, créant des tensions entre la communauté d'accueil.
Avant l'arrivée des réfugiés, ces populations payer un fagot de bois. Moi, je me rappelle, un fagot de bois, c'était à 200 francs, à 100 francs. Un fagot de bois. Et maintenant, avec 1000 francs, tu ne peux pas trouver le bois.
Pour réduire les tensions et restaurer l'écologie, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés et les groupes d'aide locaux reboisent autour du camp.
Il faut vraiment continuer le reboisement. Le reboisement est seulement cadré au niveau du camp. Moi, c'est ce que j'ai vu. Mais hors camp là, même s'il y en a, ce n'est pas beaucoup. Donc, il faut reboiser tout le canton, tout le secteur. Là où la population souffre là, il faut reboiser tout.
Le HCR dit qu'au cours des 5 dernières années, ils ont jusqu'à présent planté plus d'un demi-million de plants. Ils enseignent également aux réfugiés et aux habitants des options de combustible de cuisson renouvelable, comme la fabrication de charbon de bois à partir de déchets ménagers.
Des cuisinières solaires. Donc c'est un système aussi que nous allons mettre en expérience dans le camp. Et si nous voyons que ça peut très bien marcher, pourquoi ne pas vulgariser afin que les réfugiés commencent vraiment à faire la cuisine avec l'énergie solaire.
Pendant ce temps, les réfugiés nigérians comme Andraous peuvent fabriquer et vendre le charbon des déchets ménagers pour gagner de l'argent tout en aidant à sauver les arbres. Andraous a utilisé son argent pour démarrer une petite ferme d'élevage de chèvres.
Voilà. Merci beaucoup Lionel. Et je rappelle nos invités pour ce Washington Forum sur Skype. Ici à Washington, nous avons Alix Boucher, elle est chercheure au Centre d'études stratégiques de l'Afrique, basée ici dans la capitale américaine, toujours sur Skype depuis la ville de Lincoln au Nebraska. Nous avons Jean-Aimé Mbia Bondo, responsable à l'ONG International American Relief Society. Alors, dites-moi, Alix, la question de la résilience revient très souvent dans les discussions concernant les réfugiés, les déplacés. Mais comme on l'a vu dans ce reportage, ces conflits fonciers ou la cohabitation parfois difficile entre déplacés et autochtones, est-ce que selon vous, ça risque d'être la prochaine bombe à retardement?
Je pense que ça, c'est... Je ne sais pas si ça sera la prochaine bombe à retardement, mais il est évident que ces pressions risquent de continuer d'augmenter et que c'est très difficile à gérer et à trouver une solution de telle sorte à la fois la population autochtone et les réfugiés puissent continuer à survivre dans ces conditions. Ce qui est difficile, c'est que étant donné la durée du conflit dans cette partie du Nigeria et dans le nord du Cameroun, les populations déplacées risquent de le rester.
Jean-Aimé, dites-moi, c'est la RDC est un pays que vous connaissez bien. Ce sont des difficultés qu'on a vues aussi, notamment dans l'est de la RDC, la question foncière.
Oui, c'est un problème réel. Pour partout les réfugiés. Nous avons observé ça, par exemple, au nord, vers l'Équateur, et puis même en Ituri, dans les camps de réfugiés où nos équipes sont là. Il y a un problème majeur pour nous. Nous pensons qu'il y a d'abord la sensibilisation. Sensibiliser la communauté locale, accepter la présence des réfugiés dans leur milieu. Et les réfugiés aussi, les sensibiliser à comprendre que non, ils peuvent faire un choix. Soit retourner dans leur pays d'origine, soit se réinsérer dans la communauté. Et en se réinsérant, il faut qu'ils soient en mesure d'apporter quelque chose de nouveau. Et ne pas s'attaquer seulement à l'environnement, mais chercher à... Parce que souvent, il y a chaque organisation a son approche, il y a ceux qui aident, qui forment les réfugiés à apprendre quelque chose et à se réinsérer dans la communauté. Mais il y a aussi ceux qui ne comprennent pas. Mais pour nous, nous pensons que la meilleure des façons serait de sensibiliser d'abord les communautés locales, de comprendre que non, il y a des gens qui sont venus dans leur milieu, qui doivent faire avec, et faire comprendre aussi aux réfugiés de se réinsérer socialement.
Et justement, Justement, Jean-Aimé, vous, votre organisation a étendu ses activités maintenant pour inclure la lutte contre la pauvreté dans les pays d'origine des réfugiés. L'objectif, est-ce que c'est de ralentir l'arrivée des réfugiés dans des pays développés comme les États-Unis?
Oui, c'est là, parce que nous nous sommes dit que souvent quand les réfugiés vont quelque part, les gens ne cherchent pas à comprendre pourquoi les gens ont quitté ou bien fui leur pays. Il y a, on peut le dire, il y a comme des guerres, il y a aussi les exilés qui viennent, qui se décident d'aller n'importe où. Mais les plus grands problèmes, nous nous sommes dit que nous devons attaquer les problèmes en amont et en aval. Comprendre pourquoi, qu'est-ce qui fait que les gens quittent leur pays. Il y a entre autres la mégestion des ressources naturelles par les dirigeants. Ce qui fait que non, les gens rêvent d'aller trouver le mieux ailleurs. Alors on s'est dit, pour nous, nous devons travailler en aidant les gens dans leur pays, en les aidant à combattre la pauvreté, s'ils peuvent trouver le mieux dans leur pays, au lieu d'envisager d'aller ailleurs, où souvent ça pose des problèmes. Nous avons des cas ici. Il y a certaines personnes qui sont retrouvées réfugiées ici, mais leur réinsertion sociale pose des problèmes parce qu'ils n'arrivent pas à s'adapter à la vie. Vous pouvez vous imaginer quelqu'un, peut-être qu'on a connu des gens, et peut-être il était médecin au Congo ou bien dans un autre pays francophone, souvent quand ils migrent ici en Amérique, où ils étaient juristes, ils travaillaient, mais arrivent ici, par manque de langue, par manque d'instruction, ils se retrouvent, ils font un housekeeping. Donc ça pose des problèmes. Alors nous pensons que nous, il y a certaines personnes, si nos dirigeants des pays pauvres pouvaient prendre en compte la gestion du pays, et beaucoup, ça éviterait beaucoup qu'il y ait des réfugiés à l'étranger.
Une perspective très intéressante. Alors, Alex Boucher, quels sont les risques sécuritaires pour les gouvernements africains si cette crise des réfugiés s'empire? Et comme le disait Jean-Aimé, est-ce qu'il faut peut-être travailler davantage à la redistribution des ressources et aider toutes les populations à avoir plus de ressources pour peut-être... c'est peut-être une manière de voir les choses, non?
Je pense tout à fait qu'il faut se concentrer sur cet aspect de résoudre la pauvreté en Afrique, dans les pays d'origine, d'autant plus que, je parlais tout à l'heure de 32 millions de déplacés de force sur le continent, les trois quarts d'entre eux, 24 millions, le sont à l'intérieur de leur pays, et de plus, en général, 95% de ces déplacés de force restent sur le continent. Il n'y a que 5% qui essayent d'aller, par exemple, en Europe ou ailleurs. Donc il est évident que, étant donné que la grande majorité d'entre eux restent non seulement dans leur pays ou alors dans un pays voisin, il faut se concentrer sur cette grande majorité d'entre eux. Donc se concentrer sur ça, de résoudre ces conflits, de résoudre les problèmes de gouvernance répressive, de soutenir le développement économique, c'est ça qui permettra d'améliorer la sécurité, que ça soit dans les pays d'origine ou dans les pays où les populations se réfugient.
D'accord. Alors, Washington Forum, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à mes invités et à vous qui nous avez suivis sur notre site voafrique.com, sur Facebook et à travers nos télépartenaires sur le continent. Je n'oublie pas, bien sûr, toute l'équipe technique. À très bientôt. Au revoir.